Sud Radio, il est 2h. Parlons vrai.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, nous sommes avec Maxime Troulot pour regarder l'actualité et vous allez réagir. 0826-300-300, nous parlerons de liberté d'expression tout à l'heure entre 9h30 et 10h. Mais tout de suite, Maxime, oui. Nous allons faire un petit point météo. Ah. Enfin, un petit point météo, vous allez comprendre. Oui. Nous allons partir pour les Pyrénées-Orientales.
Oui.
Cela fait des mois qu'il ne pleut pas sur les Pyrénées-Orientales. Confronté à une sécheresse record, je pense que dans les Pyrénées-Orientales, on n'avait jamais vu ça. Et puis tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Mmh. Et Bruno, qui est maraîcher arboriculteur à Saint-Cyprien, est avec nous. Bruno, bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques Bourdin.
Vous êtes heureux de voir tomber la pluie, j'imagine, Bruno.
Ah ben effectivement, on est réjouis d'avoir ce temps pluvieux depuis 2-3 jours et en fait de la pluie significative dans notre département.
Oui, ça pleut bien depuis 2-3 jours.
Ah, oui, c'est ça, on a eu jusqu'à entre 60 et 80 mm dans le département, hein, c'est presque autant que ce qu'on a eu les 6 derniers mois, donc autant dire que pour nous, c'est exceptionnel, voire même inespéré.
Alors quand vous voyez tomber cette pluie, vous essayez de recueillir l'eau, comment ça se passe? C'est vrai, parce que quand on est comme ça, confronté à la sécheresse, j'imagine qu'on réfléchit à tous les moyens pour essayer de stocker l'eau.
Oui, évidemment, ça va améliorer la situation et oui, l'ensemble des stockages d'eau vont pouvoir significativement s'améliorer. Bon, on a aujourd'hui une pluie en plus qui est régulière, donc du coup ça nous permet de bien humidifier les sols et pas d'avoir des précipitations trop fortes comme on peut avoir en Méditerranée où toute l'eau partira à la mer. Donc là c'est bien parce que l'eau s'infiltre, réhumidifie la terre, voilà, et pour nous c'est vraiment inespéré ce début de printemps où clairement nos perspectives en termes de ressources hydriques étaient sombres pour les semaines et les mois à venir.
Bon, ça va vous permettre de passer le printemps et peut-être une partie de l'été dans tous les cas. Il faudrait qu'il repleuve encore. Bruno, vous êtes maraîcher, vous êtes arboriculteur. Que cultivez-vous, dites-nous?
Moi, je suis producteur de tomates, concombres, fraises, sous serre, voilà. Et en arboriculture, des produits pêche, nectarines, abricots, qui sont les productions, classiques, traditionnelles. Donc des Pyrénées-Orientales.
Vous vous attendez à une bonne récolte, du coup?
Écoutez, oui, alors c'est pas avec la pluie qu'on a eue où on va sauver notre saison, au vu du déficit qu'on a eu depuis 2 ans. Mais clairement, ça nous donne un peu de perspective pour les semaines à venir, y compris d'ailleurs pour les cultures non irriguées, puisqu'on avait quand même des vignes qui sont extrêmement touchées par la sécheresse, voire certaines qui sont en train de mourir aujourd'hui. Donc clairement, ça va donner une bouffée d'oxygène aux producteurs du département et on espère avoir encore quelques épisodes pluvieux dans les semaines et mois à venir, de façon à passer la saison sans avoir trop de problématiques de production. Et bon, clairement, là, ça nous sauve les semaines à venir et on va espérer que les épisodes continuent comme ça, quoi.
Bien. Merci, Bruno. Et je suis... Parfois, il faut donner de bonnes nouvelles. Vous savez, c'est bon de donner aussi de bonnes nouvelles de temps en temps, parce que si vous écoutez les médias, vous n'entendez que des mauvaises nouvelles. Jamais personne ne donne, alors qu'il y a de bonnes nouvelles. Oui, mais ça ne fait pas recette, les bonnes nouvelles. Donc, on ne les met pas en avant. C'est tout simple. Bien, merci beaucoup, Bruno. Les écrans et les jeunes. Alors, on attend, Maxime, avec impatience, le rapport. On sait déjà ce qu'il contient dans ses grandes lignes, le rapport qui avait été demandé par le gouvernement à des spécialistes pour fixer les dangers et les limites à l'utilisation des écrans pour les plus jeunes.
Oui, ce rapport va être remis ce matin, Jean-Jacques, à Emmanuel Macron, donc sur l'exposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux, avec ce rapport donc commandé en tout cas par deux rapporteurs, le professeur Amine Benyamina et le docteur Servane Mouton, coprésident de la commission des écrans. Que disent-ils? Eh bien, ils préconisent d'interdire les écrans pour les moins de 3 ans, les téléphones pour les moins de 11 ans et les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ils font plusieurs préconisations sur la question.
Mais alors, interdire? Mais comment interdire? Alors, interdire les écrans aux moins de 3 ans, ça, c'est de la responsabilité des parents. À 11 ans aussi, c'est de la responsabilité des parents. Mais c'est bien plus difficile, hein, à 11 ans, d'interdire les écrans et notamment le téléphone portable. Mmh. 11 ans. 11 ans. Vous réagissez. 0826 300 300. Tiens, comme Cynthia, qui est à Narbonne. Bonjour, Cynthia.
Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour à tout le monde.
Ça va bien, Cynthia, ce matin ?
Ça va très bien. Je suis dans les PO.
Justement. Et il pleut ?
Voilà.
Et il pleut ?
Oui, oui, oui. Il pleut. Donc, mais ce n'est pas le déluge comme hier. Donc,
non.
C'est déjà bien.
Mais c'est bien. Une pluie régulière, c'est ce que nous disait Bruno. C'est
bien. Écoutez. Oui, oui, c'est très bien. On espère qu'on va avoir une bonne saison et des bons fruits et légumes.
Bon. Vous avez des enfants de 6 et 10 ans, Cynthia ?
Voilà, j'en ai 3.
3. 6, voilà. 10 et combien ?
6, 8 et 10.
6, 8 et 10. Alors, la plus grande, 10 ans, a un téléphone portable ?
Oui, mais en fait, alors, comme je vais vous dire rapidement, c'est que je trouve un tout petit peu aujourd'hui utopique d'interdire les écrans à la maison. Pourquoi ?
Oui.
La petite de 6 ans, elle fait ses devoirs sur Internet. C'est-à-dire que l'école, elle a donné des devoirs numériques. Donc, sans écran, ça va être compliqué de les faire. Voilà. C'est pareil pour celle de 8 ans ou 10 ans. Ensuite, la grande de 10 ans, elle voyage. Je ne peux pas me permettre de dire qu'elle part en voyage sans un téléphone ou là où. Pour moi, c'est, voilà, elle va à l'étranger ou je ne sais quoi. Je veux qu'elle ait un... La dernière fois, ils sont partis en Espagne à PortAventura. J'étais contente qu'elle ait un portable avec elle.
Oui, bien sûr.
Voilà, que je puisse avoir au moins des nouvelles ou au cas où on puisse nous joindre. Pour moi, c'est la moindre des choses. Maintenant, je serais d'accord, par contre, sur le fait que ces enfants ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux.
Mais
et
comment
pour
faire
moi, quelqu'un qui va... Comment faire ? Les téléphones, c'est moi qui les contrôle.
Voilà.
Il y a une application. Elles n'ont pas le droit de télécharger les réseaux sociaux. C'est moi qui contrôle tout ce qu'elles téléchargent.
Mmh.
Le temps passé sur le téléphone, c'est moi qui le contrôle. C'est-à-dire, si je dis, vous passez que 30 minutes pour faire les devoirs, c'est 30 minutes pour faire les devoirs. Pas plus. Le téléphone, après, il s'éteint. Il faut un code. Qu'elles n'ont pas.
Mais vous avez raison.
Donc c'est pour moi c'est le contrôle des téléphones, c'est pas l'interdiction, c'est le contrôle et expliquer avec les enfants. Le téléphone c'est fait pour des choses urgentes. Avant on s'en passait bien. Moi j'avais pas de téléphone quand j'étais jeune. On s'en passait très bien. Elles sont jamais sur le téléphone parce que nous on a la chance d'être au bord de la plage et pas loin de la montagne, donc on est tout le temps plutôt dehors de ce côté-là. Et elles font beaucoup d'activités, que ce soit artistiques ou sportives. Mais ça c'est encore une fois c'est du fait des parents. Maintenant, c'est vrai que c'est facile quand elles sont à la maison de se dire on va les mettre devant la télé et comme ça on fait le ménage et tout ça. Non, moi par exemple, je dis non, je veux pas la télé, mais je vais leur donner des dessins à faire, de la peinture, d'autres choses. Voilà, réviser le piano, la flûte, ce genre de choses. Mais pour ça, c'est encore une fois la responsabilité des parents. Par contre, interdire pour voyager, pour faire les devoirs, c'est pas possible. Les réseaux sociaux, on peut les interdire. On peut dire aux enfants, parce que moi je trouve, je suis sur les réseaux sociaux et je vois parfois des enfants et je leur dis mais ils n'ont pas à y faire. Déjà quand vous avez moins de 13 ans c'est interdit et pourtant ils y sont. Et les enfants de 13 ans ils sont irresponsables sur Internet. Ils ont accès à tout ce qui est pornographie, drogue, violence et pour eux ça devient la norme. Et après ça fait des adolescents complètement perturbés et très violents et on se demande pourquoi. Bah oui, mais déjà il faudrait qu'ils ne puissent pas être sur les réseaux sociaux. Voilà.
Je suis assez d'accord avec vous, même totalement d'accord avec vous, Cynthia. Bien, il y a des parents qui exercent leur responsabilité, d'autres qui ne l'exercent pas, et certains sont confrontés à cela et sont un peu désemparés, parce que c'est pas si facile que ça, hein, d'interdire, de moins de contrôler, c'est pas si facile, il faut vraiment le vouloir. Merci beaucoup, Cynthia. Hein.
Merci à vous.
Merci vraiment, et ça fait réagir, j'imagine, 0826 300 300. Qu'en pensez-vous ? Vous prenez votre téléphone et on vous rappelle, hein, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle, vous appelez. Nous allons revenir sur les mobilisations étudiantes un peu à l'initiative, encouragées dans tous les cas par LFI, les mobilisations étudiantes en soutien aux Palestiniens. Nous allons en reparler, nous parlerons de liberté d'expression tout à l'heure. Vous êtes sur antenne de Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio Mazamé.
104.1.
Sud Radio.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Vous avez des ados, des pré-ados qui ont 9, 10, 11, 12, 13 ans. Comment faites-vous avec le téléphone, avec les écrans? Racontez-nous, parce que vos témoignages sont utiles pour tout le monde, je le dis toujours. Ce rendez-vous est utile parce que ça nous permet d'écouter ce qui se passe ailleurs, peut-être de prendre, de pêcher une idée, de vous aider à réagir et à vous comporter avec les enfants, par exemple. William est à Brive, en Corrèze. Bonjour, William.
Oui, bonjour à vous. Bonjour.
Bonjour, William. Comment vous avez un fils, une fille de 11 ans, c'est ça?
Voilà, j'ai un fils de 11 ans qui, bien évidemment, fait partie d'une génération qui est pleinement en demande d'écran et d'utilisation.
Et oui.
Voilà, que ce soit de la console de jeu ou le téléphone. Alors, je suis parti dans l'idée de ne pas interdire parce que ça me paraissait ridicule. J'ai attendu, bien évidemment, le plus tard possible. Mais j'essaie au quotidien d'utiliser ça plutôt comme un moyen de renforcer la confiance qu'on a tous les deux.
Oui.
Un outil de confiance plutôt qu'un outil de combat et de duel là-dessus. Je suis plutôt porté sur le principe d'essayer de comprendre comment il l'utilise. Pourquoi il l'utilise? Je vous prends l'exemple concret d'une console de jeu. Il a une console où il joue de temps en temps là-dessus. Et plutôt que de partir sur un nombre de minutes qui me paraissait pas pertinent, parce que si au bout de, je lui autorise 20 minutes, que sa partie n'est pas finie, c'est ridicule d'autoriser l'enfant et de le faire couper en plein milieu d'un jeu. Et si derrière, finalement, vous laissez l'enfant continuer un petit peu plus, parce qu'il n'a pas fini sa partie, la règle que vous avez mise en place, elle n'a plus de sens. Et ce qui compte pour l'enfant, c'est de mettre du sens à ce que l'on fait. Donc moi, je suis plutôt parti dans l'idée de comprendre, de voir combien de temps durait une partie ou une étape après laquelle il pouvait arrêter de jouer. Si c'est 18 minutes, si c'est 25, c'est pas très grave, les 7 minutes d'écart. Mais en tous les cas, ça les responsabilise beaucoup sur le principe de dire mes parents me font confiance sur ce principe de jouer, maintenant c'est à moi de me gérer, je fais ma partie et j'arrête. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors je fais pas de statistiques précises bien évidemment, mais on se rend bien compte au quotidien qu'il y a beaucoup moins d'utilisation et que ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Il prend, il fait sa partie, la partie est finie, il coupe et il part sur les devoirs ou sur ce qu'il nous reste à faire comme activité. Et je trouve que c'est mieux d'utiliser comme un outil pour renforcer cette confiance parent-enfant plutôt que de mettre une règle qu'on ne pourra pas respecter de toute façon. J'essaie de mettre un maximum de sens à cette relation.
Je comprends, William. C'est une approche intelligente, une approche responsable. Je comprends très bien. Et je dois dire que c'est ce que j'ai appliqué avec mon fils, il a aujourd'hui presque 18 ans, donc évidemment c'est différent, mais c'est la règle que j'ai appliquée. Et je pense que c'est très bien, parce que c'est très bien, comme ça, ça leur permet de comprendre qu'il y a des limites.
Et oui. Exactement, qu'elles viennent d'où.
Et ça les responsabilise. L'objectif, c'est quoi, quand on est parent, me semble-t-il, c'est de donner de l'autonomie aux enfants et de les responsabiliser. C'est ça la grande difficulté. Et la grande difficulté, nous sommes tous parents confrontés à cela. Comment donner à la fois de l'autonomie aux enfants et comment les responsabiliser? C'est ça le fond du problème.
Exactement. Et on a une génération qui, de par l'utilisation de ces outils, est capable d'être responsabilisé de plus en plus tôt sur certains items de leur vie. Donc c'est assez important. Et puis, on le voit même même entre adultes, les choses qui se passent basées sur la confiance et avec la compréhension des deux, ce sont des choses, des mesures qui durent dans le temps. Si on passe en force tous les jours, ça ne durera pas.
Bien sûr.
L'objectif, c'est que nos enfants soient calés aussi. Sur cette partie éducation, on ne peut pas répéter les mêmes choses tous les jours. Donc il faut arriver à faire en sorte que ça vienne aussi de l'enfant. Et si ça vient de lui, alors c'est gagné, c'est un bien grand mot. Mais en tous les cas, il y a une belle étape de franchie.
Bien, merci beaucoup, William. Merci.
Merci
d'être avec nous sur Sud Radio, William. Sud Radio, vous êtes de plus en plus nombreux, je le dis toujours, mais j'en suis tellement heureux. Dans un instant, nous parlons des mobilisations étudiantes en soutien aux Palestiniens. Plus ou moins importantes. Yamina et Xavier sont là. Yamina, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci Yamina d'être avec nous. Merci. Xavier est à Lyon, informaticien. Bonjour Xavier. Alors Yamina, ça me fait plaisir de vous avoir. Yamina, c'est la première fois.
Hein ? Oui, absolument.
Vous êtes enseignante en fac, hein, Yamina ?
Oui.
Je vous sens un peu émue là.
Absolument, oui. Puis je suis toujours très heureuse d'être à l'antenne sur Sud Radio, radio que j'affectionne particulièrement.
C'est vrai ? Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina ?
Parce parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre.
Oui.
Et puis il y a toutes les opinions qui s'expriment. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en ces temps difficiles.
Oui, ça, je suis d'accord. Alors, dans votre fac, Yamina, vous êtes enseignante, est-ce qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes ?
Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas propagé à ma fac, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un mouvement de propagation à Lyon, à Bordeaux, etc. Et puis bon, oui. À Paris, Sciences Po et Sorbonne. Peut-être ça viendra, ça a été le cas pour la réforme des retraites, hein, donc ça finit par arriver. Et puis on verra la mobilisation surtout des syndicats étudiants, en l'occurrence l'UNEF, puisque suite à leur communiqué. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe.
Il n'y a rien qui se passe. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse comme ça venir dans une fac se mobiliser pour défendre les Palestiniens sans finalement qu'il y ait de contradiction, parce qu'il n'y a pas de contradiction, très peu de contradictions. Alors je voudrais aussi préciser qu'il y a 13 000 étudiants à Sciences Po et que ce qui s'est passé vendredi concernait 150 à 200 étudiants. Hein. Il faut aussi relativiser les choses. Yamina.
Je suis entièrement d'accord, il faut relativiser. Il y a quelques centaines que j'appellerais de pseudo-révolutionnaires manipulables à merci. Par l'extrême gauche et le pire par les islamistes et c'est là effectivement le danger, parce que bien évidemment que les universités, que les campus universitaires doivent être le lieu d'abord du débat.
Ben bien sûr, il y a toujours eu des contestations, des débats à l'université, c'est pas nouveau.
Il le faut, mais là c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a aucune nuance à apporter, avec des positions très radicales, très très radicales, et ce qui empêche le débat sera. Mmh. Et ça par contre, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est inacceptable ce qui arrive aux étudiants juifs. C'est inacceptable de ne pas pouvoir discuter de cette question très complexe. Il n'y a pas de nuance possible, très complexe. Et le pire, très sincèrement, et ce qui m'attriste, et m'inquiète, c'est que ces mouvements-là sont aujourd'hui récupérés par l'Iran. On a vu le communiqué du chef
suprême. Oui.
Absolument. Et puis du Hamas aussi. Parce que c'est très bien de défendre les droits des Palestiniens, et j'en suis entièrement d'accord. Mais sans oublier quand même ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça, c'est extrêmement important. Il faut condamner à la fois le pogrom du 7 octobre, mais aussi, bien évidemment, la guerre. La guerre, ce que subissent les Gazaouis. Il faut apporter un peu de nuance, un peu de contradictoire, et ne pas faire subir aux étudiants juifs, qui ont aussi le droit de suivre des cours, qui ont aussi le droit de faire entendre leur voix, mais comme pour toutes les autres opinions, au sein des universités, c'est les lieux.
Vous êtes musulmane, Yamina ? Vous êtes musulmane ?
Je suis de culture musulmane,
oui. Oui. Non, mais c'est bien d'entendre les propos que vous tenez dans la bouche de quelqu'un qui est de culture musulmane.
Oui,
ben,
oui
bien
c'est
sûr.
Important. Et bien on sûr, est nombreux à le penser. On est nombreux à le penser.
Vous êtes nombreux, voilà, parce que je voudrais qu'on arrête de penser que tous les musulmans sont les mêmes.
Non.
Vous comprenez ce que
non,
je veux
non.
dire, Yamina ?
Mais bien évidemment, on n'est pas tous les mêmes. On est nombreux à penser, à être solidaires de ce qu'a subi le peuple juif, en tout cas les Israéliens en l'occurrence. Le 7 octobre, j'ai été d'ailleurs à tous les rassemblements, ce qu'ont subi les femmes de viols, d'exactions, les enfants. Et ça, c'est... C'est primordial, c'est primordial d'être à leur côté, mais aussi d'être aux côtés du peuple. Non.
Ça ne veut pas dire qu'on soutienne Benjamin Netanyahou.
Il faut différencier les deux. On soutient des peuples. Et d'ailleurs, soutenir le peuple palestinien, c'est au contraire. Crier fort notre désaccord, voire la condamnation du Hamas. La condamnation du Hamas, et là, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas dans les protestations, dans les rassemblements des étudiants aujourd'hui. Mais je vous ai dit dès le début, ils sont malheureusement manipulés par des opportunistes, des islamo-gauchistes. Et ce qui a révélé ces rassemblements et ces blocages, c'est tout simplement l'alliance dangereuse, en l'occurrence, entre une gauche, une extrême gauche, et des islamistes. Alors, voyez-vous, donc les islamistes aujourd'hui avancent.
Oui. Que vous entendez, vous écoutez Yamina, nous écoutons Yamina. Qu'avez-vous envie de lui dire ?
À Yamina, pas forcément grand-chose. J'entends le discours politisé, bah, très bien. Mais aujourd'hui, je pense que vous perdez de vue peut-être l'essentiel, en fait. La première, c'est que, M. Bourdin, vous avez été jeune comme moi, hein. On a été étudiant, on a manifesté, on a pris de la lacrymo, oui, on a été en face de CRS, on connaît l'histoire. Et on sait très bien que lorsque l'on manifeste pour quelque chose qui déplaît au gouvernement, forcément on est taxé d'être récupéré, d'être influencé, d'être manipulable, d'être des jeunes idiots, et etc. Pourquoi pas ? Et quand effectivement on manifeste pour quelque chose qui convient au gouvernement, là forcément on est la passion de la France, on est la passion morale en action, très bien. Bon, ça, tout ça c'est de la propagande, c'est de la politique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, quand un étudiant manifeste, qu'ils soient 50 ou 50 000, hein, oui, c'est pas le sujet, ils expriment leur engagement pour une cause. Aujourd'hui, l'engagement qu'expriment ces jeunes, ce n'est pas un soutien à une faction, à un parti, ou à je ne sais quelle mouvance militaire ou autre, c'est un souhait de mettre un terme à un massacre. C'est ça, aujourd'hui, l'expression de ces manifestations, comme l'expression de la plupart des manifestations dans le monde de soutien à Gaza, c'est des manifestations qui visent à exprimer aux États locaux la volonté des peuples que les États engagent des actions permettant d'arrêter le génocide. C'est ça. Et c'est ça le fond. Et c'est ça le fond sur lequel il faut se concentrer. Les histoires de « j'entends pas ceci, j'entends pas cela, je me sens pas en sécurité », vos petites peurs, vos petites craintes, vos petites émotions par rapport au massacre en cours sont franchement, à mon sens, d'un ridicule odieux. Aujourd'hui, il y a un massacre en cours. On est en 2024. On est à l'ère de l'information. Ça ne devrait pas arriver. En 94, on a eu le génocide au Rwanda des Tutsis. C'était déjà inimaginable qu'il y ait un génocide de cette ampleur-là dans les années 90. Là, on est 30 ans après, quasiment. Et on reproduit un génocide d'une ampleur
génocide,
incroyable, sauvage.
Attention.
Oui, monsieur Bourdin, oui. Génocide, oui, parce qu'on a déjà eu cette discussion il y a quelque temps.
Oui, génocide, pour l'instant, ce n'est pas... Et, il y a des doutes, l'entends. Vous savez très bien, non, mais bon, je ne vais pas...
Si, monsieur Bourdin, je suis désolé. Oui. Quand l'ICJ dit ce qu'il a dit, qu'il faut absolument mettre en place des mesures pour arrêter ça, parce qu'il y a un risque plausible de génocide.
Un risque de génocide, oui, c'est vrai.
Quand les rapporteurs de l'ONU officiellement devant les journalistes...
Risque de génocide, oui.
Quand les rapporteurs, que ce soit Francesca Albanese ou Madame Plalin de la rapporteuse des Nations Unies qui dit aux journalistes oui c'est un génocide, quand Francesca Albanese dit oui c'est un génocide, quand vous avez l'UNICEF qui dit oui c'est un génocide, quand vous avez tous les gens qui sont sur place, qui travaillent pour les organismes internationaux qui vous disent oui c'est un génocide, qui vous disent oui il y a des crimes de guerre. Et les crimes de guerre, vous allez sur le site de la Convention de Genève, c'est vite vu, hein, les articles 18, l'article 2, enfin, lisez-les, prenez le temps de vous balader, vous ou les autres, et regardez.
Xavier, les crimes de guerre, je sais ce que c'est, et les crimes de guerre, effectivement, devront être jugés, c'est évident, quel que soit d'ailleurs l'auteur du crime de guerre, on est bien d'accord, et les auteurs de crimes de guerre, malheureusement, ne sont pas souvent jugés dans notre histoire.
C'est une très bonne remarque que vous faites, monsieur Bourdin, parce que je me suis posé cette question-là, effectivement, des crimes de guerre, et du coup, je suis allé me... regardez ce qui se passait sur le site de l'ICC. L'ICC, c'est la Cour criminelle internationale.
Oui.
D'accord.
Oui.
Parce que l'ICJ, c'est la Cour de justice qui peut condamner des États, et l'ICC, c'est la Cour criminelle qui peut condamner des personnes. D'accord. Et sur l'ICC, il y a 31 cas ouverts aujourd'hui. Et ces 31 cas ouverts, ce sont soit des Noirs, soit des Arabes. En résumé, hein. Il n'y a pas un seul blanc, c'est assez marrant.
Il y a Poutine,
n'est pas dans la liste des cas ouverts de la ICC.
De la ICC, non, mais concernant la Cour pénale internationale, évidemment, oui.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que in fine, la oui. cause des étudiants...
Mais est-ce que crime de guerre, les Chinois, c'est pas une guerre, mais lorsque les Chinois exterminent d'une certaine façon les Ouïghours, est-ce que c'est un crime de guerre ?
Alors,
c'est un crime contre l'humanité, en tout cas, c'est pas un crime
de guerre. Tout sera jugé en temps utile, il faut des éléments pour juger. Mmh. Si effectivement il y a crime de guerre avéré, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas jugé.
Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir raison, de poids hein. de mesure. Ça n'exonère pas, ça poids, n'exonère pas le comportement de l'armée israélienne, c'est ce que je veux ouais. dire.
Exactement. Et donc bon. Oui, génocide, il y a. Oui, les manifestations étudiantes, aujourd'hui, elles visent à arrêter le génocide. Et de vous à moi, M. Bourdin, si vous, comme, on, comme oui. n'importe qui écoute votre mmh. émission ou qui, au jour le jour, voit des informations sur le sujet, tout ce qu'on peut faire, d'une manière ou d'une autre, pour faire en sorte que le génocide s'arrête, ne serait-ce qu'un jour plus tôt que ce qui est... Ce qui est
bon, il y a un cessez-le-feu, là, peut-être une trêve.
Ce serait une victoire humaine pour vous, bon. Ce serait une victoire humaine pour moi, ce serait une victoire humaine
évidemment,
pour
on est bien d'accord, il y a peut-être une trêve de 40 jours qui va être observée, nous allons voir ce que répond le Hamas, nous allons voir.
Il faut condamner, il faut sanctionner Israël, il faut que ce massacre s'arrête.
Bien, et il n'y a pas qu'Israël qu'il faut sanctionner, on est bien d'accord, hein, Xavier. Bien, merci Yamina, merci Xavier. Nous allons revenir sur la liberté d'expression dans un instant avec nos deux invités dans deux minutes, parce que vous êtes sur Sud Radio, parce que chacun a le droit de s'exprimer. 0826 300 300, qui seront nos invités et de quoi allons-nous parler exactement, Maxime Troulou?
On va revenir sur cette mobilisation du côté de Sciences Po Paris avec ce que la liberté d'expression est en danger. C'est la question que l'on posera à vos deux invités, Jean-Jacques Quentin-Coton, responsable de l'Uni Sciences Po Paris, et Alma Dufour, députée de la France Insoumise de Seine-Maritime.
Sud Radio Corté.
99.6.
Sud Radio.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
La liberté d'expression, vaste débat, vaste sujet, la liberté d'expression. Alors, l'actualité est simple, enquête pour apologie du terrorisme, Mathilde Panot et Rema Hassan, entendus par la police ce matin, nous verrons bien ce que ça va donner. Pour parler de la liberté d'expression ce matin, j'ai deux invités, Alma Dufour, qui est députée LFI de Seine-Maritime, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, et Quentin Coton, qui est responsable de l'UNI, Sciences Po Paris, bonjour.
Bonjour.
Rappelez-nous, l'UNI.
Union nationale.
Syndicat étudiant à
c'est
droite.
C'est ça, syndicat étudiant de droite. Ouais,
vous revendiquez, vous n'êtes
pas. Ah oui, c'est revendiqué, il n'y a clair. Pas de. Y a
bon,
pas
mais,
de souci,
moins,
hein.
Mais moi, j'aime celles
les
et ceux.
Les choses claires.
Qui assument.
Oui, ben, c'est vrai.
Qui assument leur position. Bien. Parlons de Sciences Po, parlons des universités, de cette mobilisation. Alors, je rappelle la réalité, hein. Quelques centaines d'étudiants. Il y a 13 000 étudiants à Sciences Po, ce qui est énorme. Quelques centaines d'étudiants mobilisés qui ont bloqué Sciences Po vendredi en soutien à la cause palestinienne. La région Île-de-France a suspendu et veut suspendre, c'est ce qu'a dit Valérie Pécresse, ses financements à destination de Sciences Po. C'est une bonne idée, Alma Dufour ?
Alors,
est-ce que ça pénalise ? Est-ce que ça ne pénalise pas tous les étudiants, finalement,
bien
de
sûr, et surtout, c'est une pression politique, justement, sur les étudiants, les professeurs, le corps enseignant, qui est absolument inacceptable. C'est-à-dire qu'on voit... En fait, on ne devrait pas, il faut se poser la question dans ce pays aujourd'hui, qu'une région, quel que soit son bord politique d'ailleurs, puisse décider d'un coup de couper des subventions parce qu'elle n'est pas d'accord avec les revendications de certains étudiants et la manière dont la direction de l'école y a répondu. Sachant que Valérie Pécresse n'a pas du tout eu les mêmes pudeurs, on va dire, concernant par exemple le lycée Stanislas, si c'est privé, mise en accusation pour des actes d'homophobie, des paroles homophobes, anti-avortement, il y a même une mise en examen pour viol sur mineur et elle a maintenu, et ainsi que c'était important de maintenir ces 900 000 euros de subvention à Stanislas. Et là, quand il s'agit d'étudiants qui bloquent pour protester contre un génocide, là d'un coup, tout de suite, on arrête les subventions, on menace et on parle et on ose parler de débats libres dans les universités.
Quentin, vous êtes d'accord avec Alma Dufour là,
c'est les étudiants qui paieront la note, ça je pense que tout le monde est d'accord, puisque c'est quand même 1 million d'euros qui viennent à Sciences Po. Ça pose question en tout cas sur le pourquoi, comment de cette subvention. Maintenant, on comprend pourquoi Mme Pécresse souhaite faire entre guillemets pression, c'est que Sciences Po est dans une instabilité totale, et ça date pas d'aujourd'hui, là ce que vous avez vu, non, c'est le paroxysme d'une instabilité institutionnelle, je veux dire, on a des départs de directeurs, on a une administration qui est complètement dépassée par les événements, et qui a du mal aujourd'hui à essayer de calmer les choses.
Donc, alors, c'est d'ailleurs ce que reproche de Mme Pécresse. Beaucoup de professeurs à Sciences Po dire « attention, beaucoup de bruit pour pas grand-chose ». Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces propos-là ?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui prend quand même dans tout le pays, c'est-à-dire... Il y a eu Sciences Po, mais maintenant il y a le campus de Menton qui est occupé. Il y a eu aussi la Sorbonne.
Le campus de Menton, c'est Sciences Po.
C'est Sciences Po, pardon. C'est le campus de Menton de Sciences Po.
Faut le rappeler.
Il y a un mouvement étudiant
la Sorbonne,
qui prend...
ça n'a pas duré longtemps hier. Hein. Ça a été vite
bien
évacué.
Bien sûr, parce qu'on envoie la police sur des jeunes étudiants. Pardon, monsieur Bourdin, mais il faut quand même rappeler les faits. Pourquoi ça n'a pas duré longtemps ? Parce qu'on a envoyé la cavalerie comme d'habitude. Et on a vu quand même des images. Excusez-moi, on parle de la liberté d'expression, on parle du blocage, pas blocage. Je vois peu les médias décrypter les séquences quand même hallucinantes de CRS qui attrape des étudiants par le col et la capuche.
Je vois ça.
Et qui les traîne pas. Oui, mais à un moment donné, c'est de la répression.
Oui.
Est-ce que c'est pas de la répression ? Et les policiers aujourd'hui, je suis désolée, on la matraque un peu facile sur tous les mouvements sociaux. Tous les gens qui ont participé à des manifestations ces derniers mois, ces dernières années, savent très bien de quoi je parle. Et là, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer la cavalerie sur des étudiants qui se mobilisent contre un génocide après 7 mois d'inaction ? Non, mais. Oui, alors je sais vous avez eu ce débat et moi je
non mais contre un risque de génocide.
Non, ça
moi
fait 4 mois. Monsieur Bourdin, ça fait. Ça fait 4 mois que la Cour elle a rendu son arrêt en parlant de risque. Elle avait demandé à Israël de démontrer qu'elle faisait tout qu'elle faisait tout pour éviter qu'il y ait génocide. Or, elle ne fait absolument rien. Pour démontrer cela, elle fait même tout l'inverse. Moi, je voulais même vous montrer, mais la personne ne le verra, mais j'ai sur mon téléphone la photo d'une petite fille palestinienne qui n'a plus que la peau sur les os. Elle est en train de mourir, comme les images, vous savez, au Yémen, vous voyez. Les enfants meurent de faim aujourd'hui à Gaza. Et si ces étudiants se sentent obligés d'en arriver là, c'est parce que ça fait des mois et des mois et des mois que même le gouvernement Macron est illégitime parce qu'il ne respecte même pas ses propres obligations. Je rappelle qu'il est signataire de la convention justement de la prévention du génocide, qui est génocide avéré ou pas encore. De toute manière, il y a une convention dont on est signataire qui veut la prévention. On est censé mettre tout en œuvre pour pousser Israël à cesser le massacre. Ce n'est absolument pas ce que fait le gouvernement français. Idem, l'accord d'association.
Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous transformez très rapidement.
Non, mais c'est important.
Et ça, c'est une volonté d'LFI. Vous savez bien.
Attendez, juste finir. C'est parce que moi, j'étais activiste avant d'être
oui,
à la France Insoumise.
Je sais.
Non, mais il faut rappeler que souvent les actions qui sortent du cadre de la manifestation de la pétition simple viennent du fait que l'autorité légitime est elle-même dans l'illégalité, puisqu'elle ne respecte elle-même pas ses obligations légales. C'est pareil pour le climat, quand moi je manifestais et qu'on faisait des actions directes pacifiques, là aussi, pour rappeler que la première personne qui était dans l'illégalité, c'était le gouvernement.
Mais bloquer une université, le fonctionnement, et interdire aux autres étudiants d'étudier, est-ce une manifestation pacifique? C'est la question que je me pose, puisqu'on parle de liberté d'expression. Votre avis?
Non, bah, évidemment non, et ça pose un vrai problème sur la liberté d'expression. Sciences Po a mis en place plein de débats sur la question de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza en Israël.
Oui. Des questions, débats utiles et nécessaires.
Des débats, et sur les enjeux institutionnels que ça pose aussi, sur la réalité de nos rapports, sur la réalité des rapports entre la France, Israël, et puis toute cette question, les questions diplomatiques qui se posent, c'est important. Les Sciences Po va former les futurs diplomates, les futurs magistrats, etc.
Donc,
c'est logique qu'on ait des débats qui se passent dans ce cadre-là. Mais dès lors qu'on sort de ce cadre, qu'on bloque justement la liberté d'expression et cette organisation des débats, bah là, on sort totalement de ce que nous permet l'université. On n'est plus du tout dans
de la liberté d'expression. Non, mais jusqu'où doit-elle s'exercer? Est-ce que la liberté d'expression doit priver d'expression celles et ceux qui sont opposés au message que les bloqueurs veulent distribuer?
Non, mais alors, je pose déjà, franchement la question. Je pense que celles et ceux qui sont opposés au message que les bloqueurs veulent distribuer ont antenne libre sur toutes les chaînes de télé et de radio.
Arrêtez, ne sortez pas.
Non,
antenne libre. Mais vous aussi, vous avez
qu'antenne
libre. Manon Aubry était là, vous êtes là.
Monsieur Bourdin,
vous avez antenne libre de la même manière.
Les étudiants et étudiantes de Sciences Po. Monsieur Bourdin, juste si je peux finir ma phrase, les étudiantes de Sciences Po, ils ne sont pas en vase clos à Sciences Po. C'est d'ailleurs justement les études qui vous préparent le plus au débat politique, médiatique, etc. C'est des étudiants qui étudient la science politique, qui étudient les affaires publiques. Ils
ne
sont pas coupés
du
monde.
Alors laissez-les étudier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait, comme je disais, ça fait encore une fois 7 mois qu'il ne se passe absolument rien. Ils réagissent aussi à un contexte où nos conférences, si ce n'est pas le cas à Sciences Po, et on remercie la direction de ne pas avoir annulé la conférence tenue par Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon dans votre établissement à Paris, ce n'est pas le cas de
au moins
5 universités en France.
19 conférences. 19 conférences tenues par Jean-Luc Mélenchon, 3 annulés sur 19.
5, monsieur Bourdin. Et vous trouvez ça normal? Et là, ça dérange personne.
Quand il y a trouble à l'ordre public, est-ce que vous trouvez normal?
Mais il n'y a pas de trouble à l'ordre public.
Risque, peut-être.
Des risques fallacieux. Et vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, on convoque la présidente du premier groupe d'opposition de gauche en France, c'est une première fois depuis la 5e République, pour apologie du terrorisme sur la base d'un communiqué de presse qui est absolument vide? Les étudiants et étudiantes de Sciences Po, ils réagissent à un contexte de criminalisation de l'opposition au génocide.
Vous savez, entendu par la police, ça ne veut pas dire coupable, ma chère Alma Dufaure.
Rien qu'un procureur se soit dit oui, il y a matière à instruire sur ce sujet-là suite à une circulaire du ministère de la Justice, parce que c'est M. Dupond-Moretti qui a mis cette circulaire-là après le 7 octobre, c'est déjà excessivement inquiétant. Les observateurs des libertés publiques en France le disent globalement, l'opposition politique de gauche au gouvernement est criminalisée.
Alma Dufaure, je voudrais revenir sur la liberté d'expression, parce que c'est toute la limite. C'est toute la limite de la manifestation. Une manifestation étudiante, tout le monde a connu ça, il y en a eu tellement dans notre histoire.
Et elles font l'évolution du débat public.
Mais je suis d'accord. Mais là, il n'y a qu'une seule parole qui est exprimée, évidemment, puisque cette mobilisation est en soutien au peuple palestinien. Et encore une fois, ça bloque la liberté d'expression. Moi, je sais pas, Quentin Coton.
Oui, mais ça bloque tous les débats. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on aurait pu faire de vrais débats.
Est-ce que vous ne bloquez pas le débat, Alma Dufaure?
Attendez, mais je rêve. On n'est plus au stade du débat. C'est-à-dire, vous dites, on n'entend qu'un des deux points de vue. Excusez-moi.
Oui.
Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un massacre qui est en train d'être commis à Gaza aujourd'hui?
Non, mais il n'y a pas une question d'arrêt de je ne vois pas le rapport entre bloquer des universités et dénoncer ça, parce que ça se fait déjà dans les débats. Si vous expliquez qu'on a bien invité Rima Hassan et vous dites que
ça très bien. On vous accuse de quoi? De préparer la présidentielle de 2027?
Mais ça n'a
vous le savez bien.
Mais attendez, mais ces jeunes.
Le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que ces jeunes nous ont appelés pour dire est-ce que c'est une bonne idée la France Insoumise de faire un blocage?
Ils voteront.
Vous êtes venus.
Ils voteront.
Mais parce qu'une fois que le blocage avait eu lieu, on est venu les soutenir pour les protéger des violences policières comme on le fait dans toutes les manifestations, comme on le fait pendant les... parce qu'ils nous ont appelés une fois qu'ils avaient commencé le blocage.
Mais c'est pas eux, c'est
pas, on n'a pas nous décidé de faire que les étudiants se mobilisent pour, enfin, pour que le génocide à Gaza cesse. Mais enfin, c'est délirant cette manière de présenter.
C'est le premier
génocide. C'est le premier génocide filmé, Monsieur Bourdin. Laissez-moi. C'est le premier génocide filmé en temps réel du 21e siècle. Si ça, c'est pas quelque chose qui peut choquer des gens qui se construisent, qui construisent leur vision du monde. Excusez-moi, qu'est-ce qui peut choquer les gens?
Ça choque tout le monde, Madame Dufour, mais toutes les images de guerre en Iran nous choquent. Et c'est normal que ça
nous choque. Le problème, c'est que ces étudiants qui sont en plus dans des cursus politiques savent très bien qu'à un moment donné, le rapport de force fait bouger les choses. Vu que le gouvernement est sourd et aveugle aux revendications des gens qui demandent, qui demandent que la France se respecte et prenne enfin des actes et pas que des paroles, il est du devoir et c'est l'honneur des étudiants et des étudiantes de mettre tout en œuvre, comme aux États-Unis aussi, pour essayer d'obtenir quelque chose. Parce que ce statu quo-là, il est inacceptable. Dire on peut avoir un débat, un camp, un autre représenté. Attendez, on parle. La Cour pénale internationale va émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou dans les prochains jours qui viennent. Non, mais on parle de ça. Si c'était, regardez, votre établissement sur soi a coupé les partenariats avec les universités russes dès qu'il y a eu l'invasion.
Nous verrons ce que décidera la Cour pénale internationale
et puis au rapport diplomatique au moment de guerre. Il n'y a aucun rapport.
Et vous croyez que les universités israéliennes qui aménagent l'emploi du temps des réservistes israéliens ne contribuent pas au génocide en cours?
Il faut se rendre compte.
Vous savez
compte
que dans les universités israéliennes, il y a beaucoup d'étudiants de gauche.
Bien sûr.
Énormément
mais
d'étudiants
de
gauche.
Mais le problème, c'est que là, on n'en est plus au stade où le fait d'être une démocratie pour Israël est une circonstance atténuante. Quand il y a un génocide qui est commis, qu'il y a les contre-pouvoirs nécessaires dans un pays...
La plupart des personnes qui ont manifesté à Sciences Po ne connaissent même pas la position diplomatique de la France à l'égard du conflit israélo-palestinien. J'ai entendu en réunion hier que... En quelque sorte, nous étions les suppôts du macronisme et certains membres du comité Palestine nous expliquent que la France ne condamne rien, que la France est un suppôt d'Israël.
Bah, la France ne prend aucune mesure,
qu'on a.
En tout cas. Elle
non, mais voilà les propos qu'on a. La plupart des étudiants qui ont manifesté ne sont pas issus, je dirais, de notre pays et ne comprennent pas quelle est la position française à l'égard du conflit israélo-palestinien. C'est aussi un problème, c'est-à-dire qu'on énerve les foules de personnes qui ne comprennent pas et qui ne savent pas non plus quelle est la position de la France à l'étranger. Ça aussi, c'est un problème, vous l'admettez.
Je pense qu'ils comprennent très très bien qu'il y a les mots et qu'il y a les actes. Et moi, je vois, ils comprennent très très bien qu'au Parlement européen, tous les eurodéputés Renaissance votent contre les sanctions contre Israël. Là, encore une fois, comme on est censé le faire, puisque nous sommes signataires de la Convention de prévention du risque de génocide. C'est-à-dire, qui est dans l'illégitimité ici? L'État qui ne respecte pas ses propres obligations ou des étudiants qui se mobilisent pour faire cesser un génocide et le massacre d'enfants? Bah vous voyez, il faut replacer les choses dans leur contexte.
9h46, petite pause, et nous allons replacer effectivement dans son contexte et ces manifestations et ce conflit. À tout de suite.
Sud Radio Bergerac.
95.5.
Sud Radio.
De rester, pas envie d'essayer, pas envie de regarder ma vie part en fumée. Quand je vois dans tes yeux qu'en fait toi tu t'en fous de ce que j'ai dans le cœur, de ce qui reste de nous. Comment ne pas vouloir partir quand t'essayes pas de retenir les éclats de ce qu'on a pu vivre et nos premiers sourires. Dis-moi pourquoi. J'ai pas envie de pardonner, je veux plus te regarder. Et si je peux pas t'effacer, au moins je veux avancer. J'oublierai bien plus tard que t'avais pas envie, que t'avais pas le temps, que toi tu t'en foutais. Des petites éraflures, des grandes égratignures, ce qui reste à l'intérieur, ce que j'ai dans le cœur, je sais pas pourquoi. Que les étoiles contemplent mes larmes. Et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes. Que le temps vacille et emporte le mal. Et comme le temps
contemple mes larmes et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes, que le temps vacille et emporte le mal. Et comme le
des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verissure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
La liberté d'expression et ses limites, c'est toute la question. Bloquer des universités, est-ce bloquer la liberté d'expression? C'est le débat, hein. Alma Dufour, vous dites non. Vous dites, si nous sommes là, parce que vous accompagnez ce mouvement quand même, hein.
Oui, mais
vous,
voilà,
vous êtes encore très présent.
Je vais préciser
très, très
que bien, le fait de soutenir, choix. Non, mais le fait de soutenir un mouvement n'est pas être à l'origine.
Mais vous êtes en accord.
Personne
avec
n'a soupçonné Gérard Larcher quand il a soutenu le mouvement des agriculteurs
Alma
d'être à l'origine du mouvement des agriculteurs.
Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit lors de ces manifestations?
Bah, je sais pas tout ce qui se dit lors de ces manifestations. Moi, je suis pas tributaire des paroles d'une centaine de personnes que je connais pas. En tout cas, sur les mots d'ordre et ce qu'ils demandent officiellement à l'université, à l'école de Sciences Po, moi, je suis d'accord. Je partage entièrement. Il faut déjà, ce qu'on dit pas, c'est que, parlons de liberté d'expression. À un moment donné, la direction voulait carrément exclure les participants au blocage. Et on a réussi à empêcher ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient exclure, donc mettre fin aux études de ces étudiants qui se mobilisent encore
mais
une fois pour
bloquer,
la plus décente,
n'est-ce
la
pas plus décente exclure pour ceux qui non, veulent travailler.
Un blocage d'une demi-journée, monsieur Bourdin, est-ce que la
une
démocratie
complète,
une journée complète,
Madame,
est-ce que la démocratie peut tolérer quand même que les affaires normales se soient stoppées pendant une journée
les étudiants,
pour mettre
ils voient
fin
pas
à
la
un
Palestine.
Génocide
les
quoi.
Étudiants, ils n'ont pas vu la Palestine, ils ont vu leur bibliothèque bloquée, ils ont vu l'impossibilité d'avoir accès à leurs cours et leurs enseignements et donc leur report là cette semaine, en une semaine de rattrapage. Je vous parle pas du bazar dans les emplois du temps des élèves qui s'organisaient personnellement pour réviser les examens de la semaine prochaine, qui seront probablement déplacés à cause justement des problématiques qui problèmes.
Mais
alors que des débats étaient organisés en interne.
Problèmes. Un blocage pose toujours des problèmes.
Mais des
c'est
débats
évident,
étaient organisés
comme,
en interne.
Comme
pourquoi
pendant
vouloir
les
bloquer
retraites, comme pendant les mouvements anti-inflation, quand les salariés de Total bloquaient le carburant.
Manifester dans la rue, on n'est pas obligé de bloquer.
Mais justement, et c'est là où le gouvernement donne le très 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 très, très mauvais exemple à notre jeunesse. Je suis désolée, moi j'étais gilet jaune avant, j'étais activée, j'ai beaucoup milité. Manifester aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vous disent que ça ne sert plus à rien. Parce que là, on a vu pendant les retraites 3 millions de manifestants qui ne sont pas écoutés. La réforme la plus impopulaire des 5 dernières années passe comme s'il n'y avait pas de problème. Le Parlement, je suis députée, on se fait rouler dessus à coup de 49-3.
Parce que vous n'êtes
comme
pas
si
majoritaire.
C'était... Non,
parce que vous n'êtes pas majoritaire.
À coup de 49-3, monsieur Bourdin.
Oui,
c'est-à-dire, on utilise l'arme constitutionnelle la plus autoritaire
mais
de toute l'Europe.
Vous savez très bien, vous êtes majoritaire avec le Rassemblement National, ce qui pose un problème politique, vous le savez
ça
très bien.
Ça pose un problème politique, néanmoins, mais l'utilisation à répétition, à la mitraille du 49-3 en permanence. Non, mais donne un
c'est
très mauvais exemple.
C'est le fonctionnement parlementaire, ça, c'est
écoutez,
autre chose.
Écoutez, qu'on ne questionne pas l'autoritarisme de nos institutions, le fait que le gouvernement est sourd et aveugle aux manifestations dans ce pays, c'est un vrai problème. Vous donnez des idées à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se disent aujourd'hui, pour être entendu par ce gouvernement, il faut aller plus loin que manifester. Ça fait 7 mois qu'il y a des manifestations pour la Palestine tous les samedis. Est-ce que ça a changé quoi que
mais
ce soit?
Est-ce que là ça va changer
absolument
quelque chose?
J'ai
ça
rencontré
changera rien
des
non
gens
plus,
qui sont prêts à entamer des grèves de la faim tellement ils sont désespérés par ce qui se passe aujourd'hui et l'inaction de notre gouvernement.
Dites-moi, je comprends fort bien.
Non, mais pardon, les agriculteurs, personne ne s'est dit « Attends, pourquoi ils ne manifestent pas tout simplement pour demander pacifiquement et dans le respect de tout le droit ?» Pourquoi, en fait, ils en sont là et pourquoi M. Darmanin a dit « C'est des coups de sang légitimes que de faire exploser des bâtiments publics ?» Enfin, on en était là dans le mouvement des agriculteurs qu'on a soutenu pour la légitimité de leur revendication. C'est parce qu'ils savent très bien que manifester... ça sert à rien sous le gouvernement Macron. Et c'est ça que ça pose comme question. Pourquoi les étudiants, au bout de 7 mois, ils se sentent obligés d'en arriver là ? Ils ont frôlé l'expulsion. Donc ils ont pris des risques quand même. Est-ce que, quand même, dans notre démocratie française, on est capable d'accepter que les affaires courantes soient arrêtées un ou deux jours pour parler
dites-moi.
Du génocide, mais on en parlait du génocide déjà. Du 21e siècle
et Dufour,
pour essayer d'avoir un résultat.
Mais tous les jours, ils en parlaient à Sciences Po. Tous les jours, il y avait des manifestations en intercours à midi 20. Tous les jours, il y a même une minute de silence qui est organisée par les étudiants à midi 20, tous les mardis. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas ce débat Sciences Po, c'est faux.
Ce qu'ils veulent, c'est faire bouger les lignes.
Mais ça ne fera rien bouger du tout, soyez honnête.
C'est l'exploitation politicienne.
C'est faux. D'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus quand même. Parce que le comité palestinien n'a rien compris aux négociations qui ont lieu, ce qui a donné hier lieu à une discussion totalement lunaire, dans laquelle vous avez le comité Palestine avec Solidaire qui vous explique que si jamais Sciences Po n'accède pas à l'ensemble de leurs demandes, ils recommenceront. Donc en fait, l'administration s'est couchée et elle a négocié face à quelque chose qui de toute façon ne conviendra pas aux associations. Parce que le fameux town hall, qui est un peu un meeting, un débat, en fait n'avait pas pour vocation à organiser le cadre de discussion sur les rapports entre les universités israéliennes et Sciences Po, mais plutôt à discuter des problématiques de l'administration, etc. Alors, rien à voir avec ce qu'aurait voulu le comité Palestine et Solidaire, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui...
Ça va recommencer ?
Oui, bah, on suppose que ça va recommencer, oui.
Oui, parce que jeudi... Que ça recommence, jeudi du four,
moi, je sais que le génocide
d'accord.
S'arrête.
Non, mais oui, ça, mais oui, non, mais non, tout
mais,
le monde...
Donc, pour que le génocide s'arrête, il faut que les
parce
États...
Parce que vous pensez que c'est 250 étudiants
Monsieur
de Sciences Po qui vont influer sur la décision israélienne
Bourdin,
ou américaine.
Ça commence toujours par quelque part. Vous savez qui est le premier partenaire commercial d'Israël ? C'est pas les États-Unis, c'est l'Union européenne. Donc déjà, il y a un enjeu majeur, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Toutes les mobilisations de la société civile, qu'elles soient étudiantes ou pas étudiantes, qui auront lieu dans les États européens dans les prochaines semaines, c'est quelque chose qu'on prend. Parce que ce n'est plus possible de regarder ce qui se passe sans agir. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc évidemment, 200 étudiants là, 300 autres pas, etc., ça fait une vague. Comme je vous dis, on prend tout ce qui peut permettre, enfin, de faire sortir les États occidentaux et les États européens de leur complicité tacite à minima, concernant les États-Unis, c'est plus que tacite, à ce qui est en train de se passer. On est en train d'ouvrir une page géopolitique.
Vous rejetez tout soit clair, parce qu'il faut que tout soit clair. Vous rejetez totalement et le pouvoir Netanyahou et le Hamas.
Je pensais heureusement.
Et le Hamas. Vous rejetez dos à dos les deux.
Bien sûr.
On est bien d'accord.
Oui.
Donc les deux doivent être conduits devant le tribunal pénal international.
Mais nous, on le demande depuis le 7
octobre. Les dirigeants du Hamas, comme Netanyahou.
Oui, nous, là, pour le coup, le communiqué pour lequel on est convoqué...
Les dirigeants iraniens également, de la même manière.
Monsieur Bourdin, j'étais la marraine de
Assad
deux.
Assad aussi, j'imagine.
J'étais la marraine.
Assad monsieur aussi,
Bourdin,
vous êtes bien d'accord.
En fait, ça me blesse quand on insinue qu'on pourrait être.
Je suis pas que j'insinue.
Non,
je vous
monsieur
pose
Bourdin,
une question.
Je peux vous raconter ma vie personnelle, enfin qui n'est pas personnelle, mais qui est politique. J'ai été marraine de deux jeunes Iraniens au nom du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui ont été exécutés. Vous croyez que ça m'a fait quoi quand je me suis levée le matin et qu'on m'a dit voilà, ils sont morts, pendus. Je veux dire, le mouvement, le régime des mollahs, la France insoumise...
J'ai pas vu les filles se manifester contre...
Le problème, c'est que
j'ai
les médias...
J'ai pas vu les filles manifester contre le régime iranien.
Si. Madame dimanche, on était représentés, justement, la France insoumise était représentée par le député Léo Walter au rassemblement qui était justement pour la libération du rappeur Thomas qui est en ce moment en prison.
Oui.
Je suis désolée, si vous ne l'avez pas vu, et c'est intéressant de le dire, c'est parce que les médias se sont vraiment désintéressés
mais
du
hier,
mouvement Femmes, Vie, Liberté
Rima
pendant
Hassan
des
disait qu'elle ne savait même pas ce qu'était...
Elle ne connaît même pas Khamenei. Donc,
La preuve qu'elle n'est pas un soutien du régime iranien. Bref, ce que je veux dire, c'est que.
M. Mélenchon voulait rentrer dans l'accord bolivarien où il y a l'Iran.
Pendant des mois, les médias n'en ont eu rien à faire de ce qui se passe en Iran. La ministre Colonna, à l'époque, ne répondait même pas à nos courriers. Et maintenant, on redécouvre qu'il se passe quelque chose en Iran parce que ça sert de diversion pour éviter de parler de ce qui se passe en Palestine.
Mais on n'est pas le gouvernement Macron,
finance le Hamas. Vous savez bien, c'est pour ça qu'on redécouvre.
Et vous savez que Netanyahou aussi a financé le Hamas.
Oui, mais c'est.
Bon, voilà. Donc, à un moment donné, tout le monde a mal à partir. Est-ce que j'ai une sympathie pour le régime des mollahs iraniens? Certainement pas. Certainement pas. On est du côté du mouvement Femmes, Vie, Liberté.
500 000 morts en Syrie.
Oui, et est-ce que j'ai une sympathie pour le régime d'Assad? Non, pas du tout.
Non, mais j'ai...
Bah, donc, du coup, monsieur, qu'est-ce que... Enfin, le fait... Bon, en fait, le fait qu'il existe autour d'Israël des théocraties violentes qui massacrent son peuple ne veut pas dire que Netanyahou a le droit de massacrer 40 000 Palestiniens.
On est bien d'accord.
Pour revenir sur la liberté d'expression, je pense que, enfin, moi, en tout cas, je suis venu pour discuter de ce sujet. Hein. Je suis assez étonné de voir la France insoumise aujourd'hui le défendre après toutes les censures qui ont été mises en place, notamment aussi à Sciences Po. Moi, j'ai été à Sciences Po Poitiers à l'époque. On avait organisé des conférences avec les partis politiques des droites, l'élection présidentielle, la France Insoumise était très énervée contre ces conférences et avait dérangé ces dernières en appelant à la censure. On a été, ça a été quand même jusque des pressions à l'administration pour qu'on les annule. Je rappelle aussi que M. Mélenchon a manifesté avec le CCIF qui pointait du doigt les caricatures de Charlie Hebdo. Et puis, accessoirement, Mme Chikirou a parlé de la caricature de Coco en expliquant « Vous n'aurez pas notre haine ».
Oui, mais il n'y a pas
on sait très bien ce que ça veut dire.
Madame, il faut développer toutes les ambiguïtés.
On a le droit des uns ou des autres.
Il y a 9h58, merci Valérie Expert-Gilles Ganzman. Reçoivent Jean-Marc Dumonté dans un instant, producteur de spectacle et propriétaire de plusieurs théâtres parisiens. Merci à tous les deux.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+.
Sud Radio.
Au creux